Chapitre 24. Depuis le retour de Clémence et Sylvestre à Rimouski, leur relation avait évolué rapidement. La jeune femme constatait de plus en plus les préjugés envers les gens d'autres origines à la suite de leur visite à Lens-à-la-Joie. Assis dans la salle de spectacle au Bon Théâtre un soir de février, son compagnon et elle attendaient la projection du film mettant en vedette un acteur français assez populaire. Il se nomme Albert Préjean, annonça Sylvestre. Riveau de la piste a été bien reçu dans son pays d'origine. J'ai hâte de voir ça. L'homme continua à lire le programme qu'il tenait à la main lorsqu'il réalisa que son ami ne l'écoutait pas. Clémence se tenait bien droite sur le bout de son siège et n'arrêtait pas de dévisager sévèrement les curieux qui leur jetaient des regards plus ou moins discrets. Angèle était assise avec sa sœur aînée, quelques bancs derrière eux. Même si elle doutait vraiment du bien fondé de cette relation, l'amour qu'elle constatait entre Clémence et Sylvestre l'amenait à l'accepter. Elle leur laissait de plus en plus d'espace, se contentant de les suivre à distance avant de les quitter généralement au bout d'une trentaine de minutes. Sylvestre fronça les sourcils et tapota la main de son amoureuse pour avoir son attention. « Clémence, à quoi tu penses? Tu m'écoutes même pas? » La jeune femme pinça ses lèvres avant de souffler avec colère. « Je peux pas croire que ce sera toujours comme ça, Sylvestre. » Ragea-t-elle en le fixant. « Comment tu fais pour endurer ça? » L'homme haussa ses épaules en posant ses yeux sur le visage offusqué de sa compagne. Il serra son bras discrètement et répondit « Je les remarque plus depuis longtemps, ces regards-là. Quand j'étais petit, je me cachais dans les jupes de ma mère. C'était encore pire parce que ma mère se faisait souvent traiter de tous les noms. Et j'en suis venue à me demander ce qu'elle avait fait de pas correct pour que des inconnus la réprimandent en pleine rue. Oh, ta pauvre maman. Elle disait rien? » Sylvestre plissa le nez avant de soupirer profondément. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Une fois, j'ai voulu m'interposer entre elle et deux mégères au marché. Je devais avoir autour de 10 ans. Tu aurais dû entendre le fiel sortir des bouches de ces femmes, Clémence. Chacune de leurs paroles était un coup de poignard pour maman, et c'est en courant sous les quolibets qu'on est parti à la maison. Elle m'a fait promettre ensuite de ne plus jamais répliquer. Elle avait coutume de me dire « Ces gens-là ont peur de ce qu'ils connaissent pas, ce sont des ignorants, et la seule réponse à l'ignorance, c'est l'indifférence. Je tente de mettre en pratique ce qu'elle m'a enseigné. J'aimerais bien la rencontrer un jour. Dommage que ton père soit décédé. J'aurais aimé le connaître lui aussi. » Sylvestre ne répondit pas, car il se demandait si Clémence serait assez longtemps à ses côtés pour qu'il puisse éventuellement la présenter à sa mère. Il doutait que son amoureuse ait la couenne suffisamment solide pour endurer les insultes, les commentaires et le mépris que leur relation générerait. S'il s'écoutait, il la laisserait partir tout de suite. Mais un regard sur son profil harmonieux, sa belle bouche aux lèvres pleines et son front volontaire lui enleva toute sa détermination. « De toute manière, songea-t-il, elle se lassera de cette situation bien assez vite. » Mais pour le moment, la jolie châtaine ne semblait pas avoir envie de s'éclipser de sa vie. Au contraire, avec un air frondeur, Clémence s'empara de la main de son compagnon et entrelaça ses doigts aux siens. Elle se pencha ensuite vers son oreille et murmura « Tiens, donnons-leur de quoi jaser alors. » À quelques bancs derrière eux, Angèle se racla la gorge pour indiquer aux amoureux de limiter leurs gestes affectueux. Pendant le film, à quelques reprises, des spectateurs se tournaient vers eux, comme pour vérifier s'ils respectaient les règles de bienséance. Mais les jeunes gens ne s'en préoccupèrent guère, trop intéressés par la comédie qui les faisait rire aux éclats. De temps en temps, ils échangeaient un regard enflammé, heureux de leur si belle communion. Lorsqu'ils quittèrent le théâtre 2 heures après leur arrivée, c'est d'un commun accord que le groupe se sépara après que Clémence eut promis à son amie de rentrer directement chez elle. Pourtant, à peine le manteau d'Angèle disparut au coin de la rue, la jeune femme se tourna vers Sylvestre et demanda « Tu m'invites chez toi alors? » Sylvestre hésita, mais sa prétendante ne le laissa pas tergiverser longtemps. « Comme ça, on pourra se réchauffer autour d'un bon thé? » s'exclama Clémence. « Il me semble que c'est pas très sage. Voyons, on n'est pas obligé de jaser dehors. On peut bien profiter de l'absence de ta logeuse, non? » Songeur, l'homme hocha sa tête cachée sous un chapeau aviateur. Il fit un clin d'œil affectueux à Clémence. J'ai même des biscuits pour la visite. La visite, hein? Tu en reçois tant que ça? Se moqua affectueusement la jeune femme. Est-ce que je devrais m'inquiéter, Monsieur Ballin? Il s'agissait seulement de la deuxième fois que Clémence pénétrait dans la chambre d'hôte de Sylvestre. En général, sa propriétaire, une femme à cheval sur les principes, refusait toute visite féminine à l'étage. Elle avait déjà hésité avant de louer à une personne noire, mais comme elle lui avait dit, « Moi, je suis croyante, et Jésus dit qu'il faut ouvrir nos portes à tout le monde. Ça fait que je t'accueille comme notre Seigneur le conseille, mais... » Et là, Madame Beauséjour avait levé un doigt moralisateur avant de continuer. « Avise-toi pas de me faire regretter ma décision, tu m'as bien compris? » Sylvestre avait accepté le compromis, sachant que sa recherche de logement dans une ville moins anonyme que Québec aurait pu être bien plus longue. Il était conscient qu'il prenait donc une chance en ouvrant sa porte à Clémence, mais il faisait noir, c'était l'hiver et les rues étaient désertes. À moins d'être surveillé, il se disait que la possibilité que la visite de son amoureuse chez lui soit communiquée à sa logeuse était minime. Son désir de pouvoir discuter et se rapprocher de la belle châtaine était plus fort que sa crainte. Le jeune homme avait raconté à son amoureuse en allant la chercher que Madame Beauséjour était partie quelques jours à Montréal et qu'elle lui avait demandé de prendre soin de son chat et de son courrier. En échange, elle m'a donné une douzaine de galettes à l'avoine fraîchement sorties du four. Je peux te dire que ça sentait bon dans la maison ce matin. Le couple grimpa le long escalier droit et, arrivé devant la porte de sa chambre, Sylvestre s'enquit, avec un peu d'inquiétude dans la voix, « Tu es bien certaine que ça ne te gêne pas d'être ici. » Même si Clémence savait que ses sœurs et son frère réprimanderaient son geste, elle avait trop envie de discuter sans témoin avec son prétendant. Ils étaient capables d'être sages, elle n'en doutait pas une minute. À peine assise sur le divan-lit bleu appuyé contre le mur sans fenêtre, Clémence enleva ses chaussures et remonta ses pieds gelés sous ses cuisses. Elle regarda l'homme s'activer devant un élément chauffant afin de faire bouillir de l'eau. « C'est quand même fantastique, l'électricité », énonça la femme tout à son aise. « Chez nous, à Lens, il aurait fallu rajouter une bûche et attendre que le poêle soit assez chaud pour déposer la bouilloire. Quand je retourne au village, je me demande tout le temps dans combien de temps l'électricité va arriver. » Dans la région de Percé, les villageois attendaient encore que l'État québécois se décide à les alimenter en électricité. Depuis son arrivée à Rimouski, Clémence avait vite compris le bénéfice d'avoir accès à ses chauffages d'appoint, à une lumière au bout du doigt et à des repas préparés plus facilement. Prise dans ses pensées, elle zieuta le corps assez musclé du jeune homme et rougit lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur son postérieur, moulé dans un pantalon marron, avec une fine ligne beige. Elle sentit une chaleur s'étendre dans le bas de son corps et son imagination lui joua des tours. « Tu veux du sucre ?» s'informa Sylvestre au même moment sans se retourner. Heureusement pour la femme qui sursauta et rougit avant de répondre, « Oui, s'il te plaît. » Quand l'homme eut déposé les deux tasses sur la caisse de bois faisant office de table, un silence s'installa entre eux. Sylvestre prit les biscuits que lui avait offerts sa logeuse et les mit au même endroit en prenant tout son temps. Ensuite, il regarda la place aux côtés de Clémence, puis la chaise droite près du mur. Il allait se diriger vers celle-ci, mais la femme ne l'entendait pas ainsi. « Voyons, assieds-toi ici. » « D'accord. » Dans des gestes empruntés, les amoureux burent en silence leur thé pendant quelques instants, le cœur battant. Puis, n'y tenant plus, Clémence déposa sa tasse et tourna son visage ovale vers celui de l'homme. « Je suis heureuse. » Sylvestre sourit en se demandant encore une fois comment il avait fait pour mériter l'affection d'une femme aussi fantastique. Tout lui plaisait chez Clémence. Ses cheveux pâles qui bouclaient délicatement, son nez un peu relevé, ses yeux bleus et son menton légèrement avancé comme celui de ses sœurs. Son corps ferme et élancé attirait souvent son regard, surtout quand elle ne lui portait pas attention. Il n'aurait pas voulu qu'elle s'aperçoive que ses yeux fixaient sa poitrine menue ou sa taille fine. Mais outre ses caractéristiques physiques indéniables, ce qu'il aimait chez la secrétaire médicale, c'était son caractère facile à vivre, sa bonne humeur et son ouverture face aux autres. Sylvestre? Oh, excuse-moi Clémence, j'étais dans la lune. L'homme mordit sa lèvre supérieure, plus charnue que l'autre, dans un geste si sensuel que Clémence s'avança pour y coller sa bouche. Aussitôt, leurs corps fusionnèrent dans un élan de passion et le couple s'embrassa de longues secondes jusqu'à en perdre le souffle. C'est Sylvestre le premier qui, au prix d'un énorme effort, repoussa gentiment la femme en murmurant « C'est pas bien Clémence, il faut arrêter ça ». Le rouge aux joues, la jeune tenta de calmer les battements trop rapides de son cœur. Ses mains étaient moites, ses mamelons pointaient derrière sa blouse marine et elle souhaitait plus que tout que l'homme s'empare de ses seins pour calmer cette ardeur qui vibrait dans son corps. Elle baissa les paupières de manière pudique et, sans dire un mot, commença à détacher le haut de son vêtement. « Clémence, » chuchota l'homme d'une voix rauque en stoppant son mouvement. « Fais pas ça. »« Oui, j'en ai envie, à moins que toi... » Levant ses yeux vers Sylvestre, elle hésita. Se pouvait-il que son désir soit plus fort que celui du jeune homme? Mais malgré toute l'envie qu'il avait de faire l'amour avec cette femme, ce dernier savait que ce n'était pas une possibilité. Il y avait trop de danger dans ce geste, pour lui, pour elle, pour leur couple. Devant le silence qui s'éternisait, la pauvre Clémence déglutit et sentit ses yeux s'embuer. Elle se trouvait tellement idiote de s'être offerte ainsi. Sylvestre la prendrait pour une femme facile, sans dignité. D'une main tremblante, elle reboutonna le haut de sa blouse et s'étira pour prendre son sac à main sur le sol à côté d'elle. « Je vais y aller. Clémence, non, je t'en prie. Dis rien, j'ai compris. » Mais Sylvestre ne voulait pas la laisser partir de cette manière. Il la retint par le bras et la femme n'eut d'autre choix que de rester assise sur le divan usé. Le corps tendu, les épaules penchées vers l'avant, elle mordillait nerveusement sa lèvre, l'âme en détresse. L'homme frotta son menton et ferma les yeux avant d'expliquer « Je veux que tu saches que je te remercie pour ta confiance. »« Tu me remercies? Ah !» ironisa Clémence. « Je m'exprime mal, ma chérie. Je veux pas que tu fasses quelque chose que tu risques de regretter. » Si ça venait à savoir dans la communauté, veux-tu bien me dire comment quelqu'un pourrait savoir qu'on a fait ça? Demanda Clémence éberluée. Sylvestre se leva pour marcher jusqu'à l'unique fenêtre de sa chambre qui donnait sur la rue de l'Évêché. Il frotta la buée et précisa ses pensées. Si une seule personne t'a vu monter ici ce soir, les suspicions et les commentaires vont commencer. Qu'on va te poser la question parce que je te promets que les gens le feraient. Qu'on va t'interroger sur ce qui s'est passé. Seras-tu capable de mentir? De dire qu'on est resté chaste? Je comprends pas pourquoi je devrais me justifier à des inconnus, Sylvestre. Qu'est-ce que tu racontes? Moins fâchée, Clémence sentit son ventre se dénouer. Au moins, ce n'était pas faute de désir qu'il la rejetait. Le jeune noir s'approcha d'elle et mit un genou par terre. Il prit les mains de sa douce entre les siennes et les baisa avec amour. « Tu es si naïve, ma Clémence. J'ai peur que le jour où tu comprendras à quel point notre relation est compliquée et peu acceptée, tu décides de me quitter. En fait, si j'avais le courage, je te laisserais partir tout de suite pour éviter de souffrir. » Secouant doucement sa tête de gauche à droite, la jeune femme tentait de voir la situation du même point de vue que son amoureux. L'envie de faire l'amour venait de passer au second plan dans leur relation. Devant la tristesse évidente qui teintait le visage de Sylvestre, elle glissa sa main sur la joue rugueuse. « Je suis là pour rester, Sylvestre. Si tu savais comme je l'espère. D'un autre côté, je comprendrais si tu voulais mettre fin à notre histoire. » « Voyons, arrête de parler comme ça. Tu me fais de la peine. Je suis plus courageuse que ça, tu sauras. C'est pas des commères de quartier qui vont décider de qui je peux être amoureuse. » Sylvestre laissa échapper un petit rire bref, car il savait que lorsque le mépris et les critiques fuseraient de toutes parts, la jeune femme n'aurait peut-être pas la force de les supporter. « En plus, je comprends pas pourquoi tu dis des affaires comme ça. T'as bien trouvé un travail ici, un logement? » Les gens en sont pas si pires que ça à Rimouski. Nous, les Noirs, Clémence, on est acceptés tant qu'on dérange pas les habitudes et qu'on se mêle pas trop aux Blancs. Mon travail, je le fais bien, et comme j'ai pas de contact avec les clients, M. Henri est satisfait. Ma chambre ici m'appartient, jusqu'au jour où Madame Beauséjour décidera de la louer à un homme ou à une femme de ton origine. T'exagères! » s'exclama Clémence en se levant à son tour, même si elle se doutait bien qu'il avait raison. Sylvestre balança la tête, ses beaux yeux verts plongeant dans ceux de la jeune femme. « Vraiment, ma chérie? Alors pourquoi étais-tu offusquée au théâtre ce soir, hein? Parce qu'on nous regardait avec bonté? » N'ayant pas de réponse, Clémence haussa les épaules en s'approchant de son amoureux pour se serrer contre lui. L'heure de la passion était passée, mais elle voulait qu'il comprenne qu'elle serait sienne jusqu'à la fin de leur jour. « Ensemble, on va passer au travers de toutes les épreuves, je te le promets, Sylvestre. Tes parents l'ont fait il y a plusieurs décennies. Le monde a évolué quand même. Et puis je t'aime, » ajouta-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Sylvestre hésita, car il se disait que c'était le moment de mettre fin à la relation si le courage lui manquait d'affronter les critiques. Mais devant le visage confiant de sa compagne, il sut qu'il ne pourrait s'y résigner. « Advienne que pourra, » songea l'homme en posant ses lèvres sur celles de Clémence. « Je t'aime aussi, ma chérie. J'espère juste que ce sera assez. » Quand Freddy et Jean-Julien revinrent de leur semaine de chasse, le photographe jura à sa nièce que plus jamais il partirait dans le bois en plein hiver. « Il y a juste des fous qui vont se geler ainsi dans une cabane pour attraper quelques pauvres lièvres. » Avant que Madeleine puisse renchérir, car elle riait trop devant son air échevelé d'homme des cavernes, Jean-Julien avait mis son baluchon dans sa voiture, qu'il avait laissé à la porte avant de partir avec Freddy, et s'éclipsa pour retrouver le confort de sa maison. Palmyre émit un drôle de son et marmonna « Je me demande bien d'où il sort, celui-là. Pas un vrai homme, si vous voulez mon avis. Il aime bien mieux lire un roman que trapper dans le vent. « Je me demande comment ça se fait que ta mère était plus chasseuse que son propre frère. » Carmel avait en effet l'habitude d'aller poser des pièges au fond du champ avec son mari dès que l'occasion lui en était donnée. En plus, la mère des jumelles ne donnait pas sa place pour fendre du bois si le besoin s'en faisait sentir, pendant que son époux était en mer. Madeleine leva un doigt faussement sévère. « Arrêtez donc, grand-mère, Jean-Julien a juste plus de douceur en lui, c'est tout. » « À qui le dis-tu? » grogna à son tour Freddy, affalé sur une chaise de la cuisine, son fils Arthur sur les cuisses. « Palmyre a raison. J'aurais ramené une dizaine de lièvres et de perdrix de plus si ton oncle m'avait donné un coup de main. Sous prétexte qu'on gelait, il voulait pas enlever ses gants trop souvent. Non, je pense que c'est pas un vrai Gaspésien. Je vous le garantis, c'était la dernière fois que je l'amenais avec moi. Au pire, j'attendrai qu'Arthur soit assez grand pour avoir de la compagnie. » Devant le regard insistant de sa grand-mère, qui était assise devant son rouet pour filer sa laine, Madeleine s'avança à quelques pas de son époux. Elle leva le nez dans les airs pour bien montrer que la semaine dans les bois avait laissé sa trace sur l'odeur corporelle de Freddy. « Va donc laver, mon mari! » se moqua affectueusement la femme en reprenant son fils. « Tu sens pas les roses? » « Je vois pas de quoi tu parles, » ricana Freddy en se levant, les mains devant lui pour attraper Madeleine qui s'éloignait en riant, son bébé devant elle comme un bouclier. Palmyre les observa avec affection, ayant l'impression que la terrible épreuve de 1934 était enfin derrière eux. Quand Madeleine s'avança derrière elle et s'accroupit pour fuir Freddy, l'homme ricana et abdiqua, le doigt dans les airs. « Vous perdez rien pour attendre, madame. » « Mais vous avez raison. J'aime trop sentir bon pour vous poursuivre encore. » Les deux femmes rirent, car elles savaient à quel point Freddy aimait prendre soin de lui. Il avait même acheté une pommade pour sa chevelure au magasin un peu avant Noël. La jeune Rosalie lui avait promis une toison bien lustrée avec ce produit de beauté fraîchement arrivé des États-Unis. Comme il s'éloignait dans le corridor vers la salle de bain, Madeleine cria « Dépêche-toi quand même, je veux te parler de quelque chose. » « Enceinte? Un autre bébé? Ah oh ben, saint crème que je suis heureux! » Freddy enlaça son épouse en l'embrassant dans le cou, sous le regard indulgent de la grand-mère. Palmyre songea avec nostalgie à quel point elle aurait aimé que son fils et sa bru aient la chance de connaître leurs petits-enfants. Marcelin tenait à ses filles comme à la prunelle de ses yeux. Il aurait adoré les voir mères à leur tour. Freddy et sa douce demeurèrent enlacés quelques secondes avant qu'Arthur ne signale sa présence. La vieille femme délaissa son rouet pour s'attabler avec le jeune couple devant un bon bouillon de bœuf et d'orge de son cru. Madeleine avait fait cuire du foie qu'ils accompagneraient de pommes de terre et d'une bonne tranche de bacon bien épaisse. L'homme se dirigea vers la chaise haute en bois qu'il avait construite en vitesse lorsque c'était devenu une évidence que Simone et Tom ne leur prêteraient rien. « Qu'est-ce que tu penses de ça, mon gars? Tu vas être un grand frère. Tu parles d'une belle surprise. Je vais aller au magasin dès demain pour annoncer la bonne nouvelle. » Mais Madeleine ne l'entendait pas ainsi. Aussitôt, son visage auparavant enjoué se referma. Elle s'approcha de Freddy pour poser une main sur son avant-bras. « J'aimerais mieux qu'on attende un peu. »
« Attendre pourquoi? »«
Ben, pour l'annoncer à tout le village. » Sur les traits fatigués mais heureux de son époux, l'incompréhension se lut avant qu'il ne réalise la raison pour laquelle sa femme voulait éviter d'ébruiter la nouvelle. Sa bouche se pinça et ses yeux bruns se logèrent dans ceux de Madeleine. « Pas question, Maddy. Déjà que j'ai dû me taire tout l'été passé sur la barge, ça fera. Je m'empêcherai pas d'être fière. » C'est pas ce que je te demande. Je veux juste que ce soit certain qu'il soit bien accroché, c'est tout. Dis pas des affaires de même, ma fille. Tu risques d'attirer le malheur. » marmonna Palmyre en enfournant une grosse bouchée de foie saignant dans sa bouche. Freddy se retourna vers la grand-mère et salua son intervention. Il donna un autre morceau de pain à Arthur, qui geignait en tirant sa manche de chemise. Puis il retourna s'asseoir, l'air déterminé. Même si les noms de Simone et de Tom n'avaient pas été mentionnés, la bonne nouvelle avait de nouveau été ombragée par le souvenir de la mort d'Éloi. Le pêcheur en voulait à Madeleine. Après tout, il s'était bien promis, le 1er janvier dernier, de mettre tout en œuvre pour que cette épreuve, sans être oubliée, reste tout de même dans le passé. Et jusqu'à maintenant, ils avaient réussi. Les joies de la maternité avaient permis à la femme de se concentrer sur le futur. Mais, entêtée, Madeleine n'avait pas dit son dernier mot. « Écoute-moi bien, Freddy. Je te dis pas qu'on va jamais l'annoncer, évidemment. Je te demande juste de patienter un peu. La semaine prochaine, on va avoir 27 ans, Simone et moi, et je voudrais pas lui offrir ce drôle de cadeau. Moi, tannée. » grommela l'homme, qui plongea la tête dans son assiette pour éviter que sa femme ne constate qu'il avait oublié la date de son anniversaire. Devant l'air déterminé de sa femme, Freddy décida de prendre son mal en patience. Le sujet fut clos et le souper se poursuivit dans une ambiance somme toute bienveillante. Freddy se disait bien qu'il en ferait à sa tête et comme il devait aller acheter un petit cadeau à Madeleine au magasin général, il en profiterait pour s'échapper sur cette nouvelle grossesse. « C'est mon bébé aussi, après tout », songea-t-il un peu égoïstement.